France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Tuam, les enfants fantômes de l'Irlande. En juin 2014, la petite ville de Tuam devient le centre d'une attention macabre qui vire au scandale politique et religieux. 800 corps d'enfants morts de malnutrition, de maltraitance et de manque de soins sont exhumés sous l'emplacement du Mother and Baby Home de Tuam. Cette institution religieuse de l'ouest de l'Irlande a recueilli durant des décennies des filles mères, des jeunes femmes enceintes et célibataires, un statut intolérable pour les autorités ainsi que pour les familles. 56 000 femmes à qui on répétait qu'elles étaient une honte pour leurs proches et leurs paroisses ont ainsi été cloîtrées, maltraitées et forcées à travailler gratuitement pour, disait-on, payer leurs dettes. Les bébés n'étaient guère mieux traités, la preuve, 800 morts, ensevelis, niés, oubliés. Un épisode de plus qui montre l'inhumanité intrinsèque des religions. Et longtemps, comme preuve ultime de lâcheté, le silence a régné. Notre invitée aujourd'hui, Nathalie Seban, maîtresse de conférences en civilisation britannique et irlandaise, à la Sorbonne Nouvelle. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Dorothée Lépine, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Mathieu Frette.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Au cœur du comté de Galway, non loin des montagnes rugueuses et sauvages du Connemara, se trouve la petite ville tranquille de Tuam, qui compte pas moins de deux cathédrales, une catholique et une protestante. Tuam, dont le nom vient du latin tumulus, des morts enfouis, un nom prédestiné. À la fin des années 50, dans ce décor emblématique irlandais où les bourrasques de pluie et de vent balaient des terres agricoles, Catherine, petite fille de 6 ans aux cheveux au beurre, marche avec sa grande sœur à travers champs. Comme chaque matin, les deux quittent la ferme familiale pour se rendre à l'école des sœurs de la Miséricorde. Un peu plus de 3 km de marche avant de rejoindre l'entrée de la commune, puis Dublin Road, où s'étale le Mother and Baby Home. Une grande bâtisse, la plus grande de la ville, froide et austère, avec une haute porte en bois foncé et ses murs de 8 mètres, gris, sombres, aimables, comme ceux d'une prison. Au sommet, des éclats de verre luisent au soleil, ils sont là pour empêcher toute velléité de fuite. C'est une forteresse, où à l'intérieur vivent les religieuses de l'ordre du Bon Secours qui s'occupent des enfants de l'institution. Ces enfants des Homes, comme on les appelle ici, l'enseignante Catherine Corless les retrouve sitôt arrivés à l'école. La tête basse, en haillons et chaussures cloutées, ils passent leur journée en silence, dans l'indifférence générale, oubliés de tous. 70 ans plus tard, dans le documentaire de la chaîne irlandaise TG4, intitulé « A Childhood in the Tuam Mother and Baby Home », Catherine se souvient de ses enfants.
Je pense qu'il devait être 4 dans ma classe de l'école de la Miséricorde de Tuam. On ne jouait pas avec eux car ils arrivaient toujours en retard le matin, quelque chose comme 10 minutes, et partaient plus tôt à la fin des cours. Même au déjeuner, ils restaient à l'écart de nous. On nous avait appris à ne pas parler à ces enfants. Ils avaient toujours l'air froid. Ils ne parlaient pas. Et ils avaient toujours ce regard effrayé.
Petite, elle se demande pourquoi les habitants de la ville menacent d'envoyer leurs enfants turbulents rejoindre les enfants du diable. Pourquoi tous sont-ils si maigres? Pourquoi certains disparaissent-ils du jour au lendemain? Des enfants souffrent-douleurs, négligés de tous, et dont la classe aime se moquer. Même Catherine se prête au jeu et fait une mauvaise blague à l'une des fillettes. Elle lui tend un bonbon, en vérité un caillou enveloppé dans du papier à friandises. Alors il y a des rires moqueurs, mais aussi le regard triste de la petite fille. Et ça, Catherine ne l'oubliera jamais. Il est des hontes qui ne s'effacent pas, mais qui vont la pousser, 50 ans plus tard, à faire éclater l'un des plus gros scandales de l'histoire irlandaise. En 2010, Catherine a passé sa vie à élever des enfants, les siens d'abord, puis ceux des autres, comme nourrice. Une vie ordinaire dans laquelle ressurgit parfois le souvenir de la petite fille aux bonbons. À l'âge de la retraite, elle se passionne pour la généalogie, d'abord par hasard, en aidant des Américains en quête de leurs racines irlandaises, mais les recherches s'avèrent compliquées. La suite, elle la raconte dans son livre coécrit avec la journaliste Naomi Linehan.
Dans le journal local, je suis tombée sur une publicité pour une classe d'histoire. C'était des cours du soir. « Voulez-vous apprendre à faire des recherches et à trouver des réponses ?» disait l'annonce. C'était exactement ce que je voulais. Je me suis plongée dans les cours avec passion. J'écoutais attentivement tout ce que le professeur de l'université avait à nous apprendre. Pour notre premier devoir, il nous a demandé d'écrire un essai de 4000 mots sur les propriétaires terriens de la région. « Cherchez local », nous a-t-il dit. « L'histoire est partout autour de vous. » Quand mon texte a été publié quelques mois plus tard, j'ai été contactée par le rédacteur en chef du journal « The Old Tune Society ». Il était impressionné et m'a demandé si je voulais bien écrire pour leur revue. En marchant dans les rues de notre ville, pour trouver mon nouveau sujet, je me répétais « L'histoire est tout autour de toi ». Quand je suis passée devant le Mother and Baby Home, j'ai repensé à la petite fille au bonbon. C'était décidé. J'allais faire mes recherches sur ce home.
Mais il ne reste plus rien depuis bien longtemps. La bâtisse a été rasée pour laisser place à un lotissement construit dans les années 70, avec au milieu une aire de jeu et une pelouse bien entretenue. C'est donc aux archives de la ville que Catherine remonte le fil de l'histoire. À sa création en 1846, le bâtiment abrite d'abord un hospice qui très vite ne reçoit exclusivement que des hordes d'affamés. En ce milieu du 19e siècle, l'Irlande est une terre de grande pauvreté. De terribles famines sévissent dans le pays. Celle de 1845 à 1852 fera 1 million de morts. Le journal local raconte même que les victimes sont si nombreuses que leur gémissement se confond avec le tic-tac de l'horloge. En 1925, les sœurs du Bon Secours récupèrent le bâtiment et le transforment pour accueillir une cinquantaine de femmes enceintes et plus du double d'enfants. Une maison maternelle, en quelque sorte. Mais c'est une description bien trop douce au regard de ce qui se joue réellement derrière ces murs. Voilà 3 ans que l'Irlande a gagné son indépendance, et pour modeler les contours de la nouvelle nation, son dirigeant travaille main dans la main avec l'archevêque de Dublin. L'Église catholique, qui a déjà joué un rôle fondamental dans l'accès à l'indépendance, renforce son influence. Et la religion devient un étendard politique, le socle de l'identité nationale. Puissante, influente, l'Église a les pleins pouvoirs dans ce pays en pleine construction identitaire, comme l'explique Catherine O'Donnell, professeure des droits des femmes à l'Université de Dublin, dans le documentaire « Tuam, les enfants de la honte ».
Il était très important de construire une nation différente de celle des Britanniques. Nous étions un pays très pauvre. On a mis un énorme accent sur une morale de la pureté. On était peut-être pauvre, mais au moins on était plus pur que ces sales Anglais. Cette idée de pureté de la nation et du caractère de ses habitants a galvanisé la société. Et cette notion de la pureté s'est répercutée sur les corps des filles et des femmes.
Alors, dans cette nation nouvelle, il faut éliminer tout ce qui est impur. À commencer par toutes ces femmes, aux mœurs jugées trop légères, trop libres, immorales. Des femmes dangereuses. Dans ce pays où l'Église impose son corset moral, les prêches du curé valent parole d'évangile et les plus fervents craignent de finir en enfer. La société tout entière refuse la moindre pitié, la plus petite miséricorde aux jeunes femmes qui ont fauté. Victimes de viol ou d'inceste, elles sont le diable en personne et leur rejeton les enfants du péché. Quel meilleur endroit alors que ces homes pour cacher ces femmes qui, par leur existence même, entachent l'idée d'une Irlande pure. Une 20aine de maisons se créent ainsi dans tout le pays, financées par l'État, gérées par l'Église. Un redoutable système d'enfermement pour toutes ces filles perdues, jetées à la porte de chez elles, du jour au lendemain, sans un sou en poche. C'est l'histoire de Sheila O'Byrn, notamment, qui a vécu à Dublin, dans un home similaire à celui de Tuam.
Tout a commencé en 1976. Je suis allée en boîte aux Sloopies. On a rencontré une bande de garçons, des étrangers. On a bu quelques verres. Moi, je n'y connaissais rien au sexe. Peu après, je suis tombée malade. J'étais enceinte. Je suis allée le voir, mais il ne voulait pas en entendre parler. Alors, je me suis dit que j'allais devoir me débrouiller toute seule. Pour les voisins, les gens de la paroisse, j'avais commis le péché originel. C'était une honte terrible. À l'église, on nous disait tous les dimanches à quel point c'était moralement répréhensible. Pourtant, Jésus lui-même était une bonne personne. Il a pardonné à Marie-Madeleine.
Dans cette Irlande du XXe siècle, l'avortement reste criminel et peut vous conduire à passer jusqu'à 14 ans en prison. Oui, c'est même inscrit dans la Constitution en 1983 jusqu'en 2018. Alors, quand le ventre de ces mères s'arrondit et que ça se voit, que le scandale va éclater, que la honte va salir la famille, souvent le curé de la paroisse intervient. La pécheresse est bannie et va expier ses fautes dans un endroit à l'abri des regards. Un soir de 1944, par exemple, la mère de Peter Marion est arrachée à sa famille. Il raconte, des années plus tard, son histoire au micro de Ryan Turridy.
Une nuit, quelqu'un a frappé à la porte de chez mon grand-père. C'était le prêtre du village. Il est entré et a dit, l'un des membres de votre famille cause un scandale dans la paroisse. Je vais donc vous demander de la faire partir.
Et c'était votre mère qui causait ce scandale en étant enceinte sans être mariée. Il voulait qu'elle quitte la paroisse ?
Oui, c'est ça.
Et quand voulait-il qu'elle parte ?
Alors, tout de suite sur le champ. Et alors qu'il était minuit, dans l'obscurité totale, et que ma mère était enceinte de 7 mois, mon grand-père l'a mise à califourchon sur la barre de sa bicyclette et a pédalé au moins 20 miles à travers la campagne vallonnée en pleine nuit. Pouvez-vous imaginer ce que ce voyage a dû être pour elle, inconfortable et terrible pour une femme enceinte de 7 mois, parce qu'il ne fallait pas être vue.
Une fois la porte du home franchie, c'est terminé. Vous lui appartenez. Démarre alors une vie rudimentaire et militaire. Réveil aux aurores, détour par la pouponnière, messe à 8 heures, petit déjeuner frugal, avant d'aller s'occuper des enfants et de s'attaquer aux corvées quotidiennes. Couper l'herbe au ciseau, nettoyer le sol à la brosse à dents, laver les kilos de linge trempés la nuit par des enfants apeurés, et veiller sur les bébés, mais jamais les leurs. C'est la règle. C'est qu'il ne faut surtout pas s'attacher. Réduite à des travaux forcés, cette main-d'œuvre gratuite, démunie, travaille sans relâche, du matin au soir, sous l'œil des religieuses qui ne manquent jamais l'occasion de les humilier. Près de 50 ans après, Sheila se souvient encore de la mère supérieure qui faisait tout son possible pour la briser psychologiquement.
Une fois, elle est arrivée dans la cuisine et a renversé les ordures sur le sol alors que nous étions en train de manger. Elle m'a dit, « Je vais t'apprendre à saper mon autorité. Ramasse !» J'ai refusé, ce n'était pas moi qui avais renversé des détritus. Elle m'a frappé, cogné ma tête contre le mur. Le sang jaillissait de mon nez. Dieu merci, les filles ont ramassé pour moi. J'étais enceinte. Dans la nuit, j'ai décidé d'aller prendre un bain pour alléger la douleur. La mère supérieure est revenue, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a plongé la tête sous l'eau et m'a maintenue sous la surface.
À Tuam, l'une des ailes du bâtiment abrite la maternité. C'est là que les femmes accouchent dans la douleur. Et en silence, interdiction formelle d'émettre le moindre son. Interdiction également de leur venir en aide pour soulager leur souffrance. Non, il faut payer, disent les tortionnaires en cornette. 7 jours après leur naissance, les nouveau-nés sont arrachés pour toujours aux bras de leur mère, sommés de retourner à leur corvée. Les bébés, eux, sont installés dans des dortoirs non chauffés, y compris en hiver, dont les températures en Irlande, avec l'humidité, vous glacent le sang. Ils sont laissés là, ces bébés, dans cette pouponnière lugubre, sans aucun soin, abandonnés de tous. Les survivants du home, ces bâtards, comme on les appelle, restent à jamais hantés par le souvenir du froid, de la peur, de la violence, comme Patrick et Peter, devenu adulte et qui témoigne.
J'essayais de me cacher sous ma couverture pour m'endormir, mais je n'y arrivais pas à cause du bruit. Des cris et des hurlements terribles. Et les religieuses qui criaient « Fermez-la !»
Même à des animaux, on n'aurait pas fait subir ça. Les bébés pleuraient tout le temps, toute la nuit, parce qu'ils se sentaient mal. Ils étaient abandonnés, affamés, et ils avaient froid.
Seuls les plus résistants s'en sortent. Les enfants sont sous la menace constante de maladies infectieuses, aujourd'hui banales, comme la rougeole, la coqueluche ou la gastro-entérite, mais qu'à l'époque tue. Le taux de mortalité infantile est très élevé dans le pays. La pauvreté est rampante, la vaccination irrégulière, et à Tioum, c'est pire encore. Voilà ce que découvre Catherine Corless, toujours hantée par le souvenir de la petite fille aux bonbons. Cette enquête, c'est désormais toute sa vie. Elle passe d'une archive à l'autre, elle affronte le silence des religieuses, tout comme le désintérêt des autorités du comté de Galway. L'Irlande, terre de secrets, tient à garder caché son passé. Jusqu'à ce que ressurgisse une vieille histoire, racontée par les vieux de la ville, il existerait un endroit où des enfants seraient enterrés. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les enfants fantômes de l'Irlande.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Au début des années 60, le home est si mal entretenu que décision est prise de le fermer. Le rénover coûterait bien trop cher. Alors les enfants sont transférés vers d'autres maisons d'accueil, les sœurs aussi. Le bâtiment est détruit. Reste un terrain vague où les enfants du coin se retrouvent pour jouer, en attendant la construction du lotissement de Dublin Road. C'est précisément sur ce terrain que deux adolescents, Franny et Bart, se trouvent à quelques jours d'Halloween en 1975. Les jours sont courts, le brouillard constant. En jouant, Franny trébuche sur une dalle en béton. Elle n'est pas scellée. Il la soulève et découvre, effaré, un trou plein d'os et de crânes minuscules. Les deux garçons s'enfuient en hurlant comme s'ils avaient vu le diable en personne. Ils alertent leurs parents, qui préviennent aussitôt les autorités, qui leur demandent d'oublier l'histoire et de ne plus jouer là. Mais quelques semaines plus tard, ça recommence. Cette fois, c'est une certaine Mary Moharty, une habitante de Tuum, qui est alertée par une voisine. Des enfants jouent dehors avec un crâne. Intriguée, elle les suit. C'est l'automne et il a beaucoup plu. Alors elle glisse, tombe dans un trou et découvre, sidérée, un tombeau de nourrissons posé sur une enfilade de marche.
Il y avait plein de petits fagots emmaillotés qui reposaient sur chaque marche. Ils avaient la taille d'une bouteille d'eau d'un litre, enroulée dans quelque chose. C'était comme du tissu noirci. J'ai compris qu'il y avait quelque chose d'emmailloté là-dedans. Il y en avait partout. J'ai dit, sortez-moi de là. J'étais toute retournée et pleine de boue.
À l'époque, les religieuses disent ne rien savoir de cette affaire. Un prêtre vient bénir le site et le trou est rebouché. Pour tout le monde ici, ces ossements sont ceux de la grande famine. Fin de l'histoire, circulez. En 2010, en hommage à ses victimes, des habitants installent une sculpture de la Vierge soudée dans une vieille baignoire. Mais cette histoire ne satisfait pas Catherine Corless. Elle reprend donc ses recherches. Elle se rend à la bibliothèque, épluche pendant des heures tous les microfilms de la presse de l'époque à la recherche du moindre indice. À l'université de Galway, elle se procure des plans du home avant sa fermeture en les comparant avec ceux utilisés pour construire le lotissement. Et là, la vérité éclate. Oui, elle est là, sous ses yeux, exactement à l'endroit où les adolescents et Mary sont naguère tombés, se situe en vérité l'ancienne fosse septique du home. Un système avec tunnels et souterrains datant de l'ère victorienne et déconnecté dans les années 30. Au vu de ce nouvel élément, les ossements trouvés ne peuvent pas être ceux de la grande famine, mais bien ceux des enfants du home. Un charnier d'enfants, jeté à même le sol, sans tombe ni sépulture, nié jusque dans leur mort, jugé indigne d'être inhumé dans un cimetière. Catherine n'en dort plus. Elle veut savoir combien d'enfants sont enterrés là-dessous. Elle s'en procure la liste alors aux archives du comté. Après plusieurs semaines de recherche, elle reçoit par email macabre décompte. 796 décès ont eu lieu entre 1925 et 1961.
Patrick Derain, 5 mois. Matthew Griffin, 3 mois. Patricia Dune, 2 mois. Martin Rabbit, 6 semaines. Bridget and Margaret Glynn, 1 an. Madeleine Bernard, 2 ans. Michael Casset, 3 ans. Mary Kate Connell, James Murray, Annie O'Connor, Walter Jordan, Martin Gould.
En 1930, ils sont 9 à mourir faute de soins. L'année suivante, 11. En 1932, 24. À Tuum, les enfants ont 6 fois plus de risques de mourir que la moyenne nationale. En 1934, un rapport parlementaire le confirme. Et pourtant, rien n'est fait pour stopper les mauvais traitements. Pire, le taux de mortalité augmente. 1937, 30 morts. 1938, 26 nouvelles victimes. 34 en 1940 et 40 à la fin de la guerre. Dans cette décennie, un enfant meurt chaque semaine. En 47, lors d'une inspection, un agent de l'État découvre des petits êtres squelettiques au ventre ballonné, gonflés par la famine. Cette année-là, ils sont 52 sur la liste. Des décès par centaines, mais aucune trace d'enterrement, ni à Tuum, ni dans aucun autre cimetière alentour. En 2012, après 2 ans d'enquête, Catherine Corless expose ses découvertes dans la presse locale. Elle n'a le droit qu'à l'indifférence générale. Certes, le silence est brisé, mais tout le monde continue de faire la sourde oreille. Refusant de désarmer, elle cherche d'autres moyens pour attirer l'attention sur ce drame. Il va lui falloir encore 2 ans de démarche, de détermination et d'insomnie pour réussir enfin à attirer l'attention de l'hebdomadaire l'Irish Mail of Sunday, qui enfin s'en saisit. Le scandale éclate alors au grand jour et devient viral en quelques heures.
Il est 7h37, l'horreur dans un ancien couvent catholique en Irlande, la découverte de près de 800 squelettes de bébés et d'enfants.
L'orphelinat catholique du Bon Secours, une maison d'accueil où des jeunes femmes enceintes étaient contraintes d'abandonner leur bébé né hors mariage. En 35 ans, près de 800 enfants sont morts.
L'Irlande est contrainte une fois de plus de se pencher sur une page sombre de son passé. D'après les travaux d'une historienne locale, entre 1921 et 1965, 796 enfants auraient été enterrés anonymement par les religieuses d'un foyer de Tuam dans l'ouest du pays.
Les anges oubliés, comme on les appelle ici, hantent la très catholique Irlande. Sous la pression de la presse nationale et internationale, le pays accepte enfin d'affronter son horrible passé. Alors que l'État annonce la création d'une commission d'enquête, les nonnes, elles, s'enferment dans leur mutisme. Mais Catherine ne lâche rien, comme poussée par une colère froide. Elle découvre, sur de nouveaux documents, un post-it sur lequel est écrit « Mettre ici une aire de jeu à cause des cimetières pour enfants ». Ce qui veut dire que le secret n'en était pas un, que les autorités savaient que des enfants reposaient là-bas et qu'elles n'ont rien dit, rien fait.
Les autorités savaient qu'il y avait des gens enterrés là-bas. Elles le savaient très bien. C'est écrit ici. Et pourtant, ils continuent à dire qu'ils n'étaient au courant de rien. Il a fallu en franchir des obstacles, obtenir l'accès aux documents du comté de Galway. Il est évident qu'ils ont voulu cacher cette affaire. Ça les dépasse. C'est comme si l'État et les religieuses étaient de mèche.
Dans sa petite ferme tranquille, à la lisière de la ville, le téléphone de Catherine s'affole. Son salon ne désemplit plus. Des dizaines de survivants la contactent, dans l'espoir de remonter la piste de leurs origines. Alors, chacun déballe son lot d'horreur. Peter Marion, par exemple. Après avoir passé près de 5 ans au Sandy Home, il est adopté, comme beaucoup d'autres garçons, par un couple de paysans irlandais en quête d'une main-d'œuvre gratuite. Ses enfants travaillaient pieds nus, hiver comme été, les beaux habits étant réservés pour les jours d'inspection. Et puis et surtout, il y a les humiliations, les violences. C'est ce qu'a vécu Peter avec son père adoptif.
Je ne comprendrai jamais comment un être humain peut faire endurer cela à un autre. Il enlevait sa ceinture en cuir pour me fouetter les jambes et le derrière. Il me déculottait systématiquement. Il me mettait sur ses genoux et me frappait. Pourquoi ? Pour rien.
La mère biologique de Peter, comme ses camarades Home, a été forcée de signer des papiers d'abandon avant d'en être chassée au bout d'un an, sans rien. Elle a échoué dans l'une de ces Magdalene Laundry, ces blanchisseries tenues par des religieuses. Nous vous avons raconté cette autre histoire sordide dans Affaires Sensibles. La mère d'un autre enfant de Tuam, c'est la P.G. Haverty. Elle a tenté de récupérer son fils. Il lui fallait 100 livres, une fortune pour l'époque. Elle a économisé des années, penny après penny et tous les jours, pendant 5 ans et demi. Elle est venue à la fin de son travail frapper à la porte du Home pour réclamer son enfant. En vain. P.G. a finalement été adopté par une famille aimante qui l'a aidé à retrouver sa mère biologique.
C'est la photo de nous deux quand on s'est retrouvés la première fois en Angleterre. Je pensais qu'elle m'avait laissé là, qu'elle m'avait abandonné, qu'elle ne voulait pas de moi, mais quand vous découvrez la véritable histoire, c'est différent. Elle m'aimait, elle me voulait, et les gens qui auraient dû l'aider, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont crucifié.
Grâce à Catherine Corless, Peter a appris qu'il avait une sœur à Tuam. Malgré des années de recherche, il n'a toujours pas retrouvé sa trace. Volatilisée, fait-elle partie de ses bébés enterrés sous le Home ou a-t-elle été adoptée? L'adoption, autre sujet noir qui embarrasse l'Irlande. L'ancien journaliste Conall O'Farta a travaillé 12 ans sur le sujet. Il parle de l'Irlande comme d'une plaque tournante du trafic d'enfants jusque dans les années 70. En 1966, le chiffre atteint un summum. 97% des bébés nés hors mariage sont adoptés. Seuls quelques enfants restent au pays. Tous les autres sont envoyés à l'étranger, notamment aux États-Unis. Évidemment que ce marché de l'adoption est illégal. mais avec cette dimension quasi industrielle, c'est un business juteux pour les nonnes, couverte de surcroît par un gouvernement complice.
Il était extrêmement compliqué pour une femme d'élever seule son enfant, même si elle le souhaitait. Les structures mises en place rendaient cela impossible. Elle était soit incarcérée dans des institutions comme celles dont on parle ici, ou éloignée, mise à l'écart dans des maisons de retraite pour accoucher seule. On lui faisait signer les papiers sous la pression. Le processus dans son entier était fait pour priver les femmes de leurs droits.
The entire process was designed to strip a woman of rights.
C'était un secret de polichinelle à l'époque que si vous vouliez un enfant, il fallait aller en Irlande. Il y avait des couples américains qui débarquaient, allaient récupérer un enfant dans une institution à Dublin, puis parvenaient à leur déclarer à leur propre nom comme si c'était le leur, avant de le ramener chez eux. C'était de notoriété publique que l'Irlande était l'endroit où aller pour avoir un enfant sans garde-fou.
Même la star hollywoodienne Jane Russell a utilisé ce système au début des années 50. Ce qui a bien failli lui coûter sa carrière, d'ailleurs. En 2013, le réalisateur Stephen Frears se saisit du sujet et raconte dans Philomena la quête d'une femme pour retrouver son fils, dont elle a été séparée peu après la naissance et adoptée aux États-Unis. Empêtrés dans le scandale, les autorités irlandaises ont bien du mal à réagir et à venir en aide aux victimes. Catherine Corless, elle, ne lâche rien et dénonce chaque fois qu'elle en a l'occasion l'inaction du gouvernement. Il va falloir encore 3 ans pour que des fouilles soient entreprises et qu'on reconnaisse enfin que les ossements sous l'aire de jeu sont bien ceux du Home, et 4 ans de plus pour qu'enfin sorte le rapport d'enquête. Dans ce document de 3000 pages, la commission juge non prouvé les maltraitances physiques. Il raconte pourtant dans le détail son rapport, par la voix des survivants, l'horreur de ces homes. Au total, 56 000 mères sont passées dans l'une de ces 18 institutions du pays entre 1922 et 1998. 9 000 enfants y sont morts, c'est-à-dire 1 sur 7, doublant le taux de mortalité infantile dans la population générale. 12% des femmes étaient mineures, certaines n'étaient âgées que de 12 ans, victimes de viols, d'inceste ou de handicap. En plus des marchés de l'adoption, le rapport révèle que certains enfants auraient été soumis à des essais cliniques de vaccins, comme celui pour la diphtérie, plutôt contre la diphtérie, sans aucun consentement des mères et dans le secret le plus total, évidemment. Au lendemain de la publication, le Premier ministre Michael Martin présente officiellement les excuses de la nation.
Jamais ces enfants et leurs mères n'auraient dû connaître ces établissements. Je m'excuse pour la honte et la stigmatisation qu'ils ont subie, parfois jusqu'à aujourd'hui.
Après des années de dénégation, l'Ordre du Bon Secours ne peut plus nier l'évidence et présente à son tour ses excuses dans une déclaration officielle, aussitôt scotchée au portail d'entrée de l'aire de jeu de Tuam. Les religieuses admettent avoir failli à leur mission de compassion pour ces femmes qui en avaient tant besoin. Elles reconnaissent la façon irrespectueuse et inacceptable dont les enfants sont morts et ont été enterrés. Je cite bien sûr. Elles s'engagent enfin à participer à hauteur de 2,5 millions d'euros aux fouilles, dont le coût total est estimé autour de 10 millions d'euros. Après plus de 10 ans de combats acharnés, Catherine Corless et les survivants du Home ont enfin obtenu ce qu'ils réclamaient. Sortir les ossements de ses enfants et leur offrir une sépulture digne de ce nom dans les cimetières de la ville. Catherine, quant à elle, continue de fouiller les archives de l'école de la Miséricorde et du gouvernement à la recherche de la petite fille au bonbon. Mais sans succès. Elle ne désespère pas de la trouver un jour. J'ai des choses à lui dire, précise-t-elle. Que de choses, en effet.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les enfants fantômes de l'Irlande. Notre invitée, Nathalie Seban. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation britannique et irlandaise à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'autrice de plusieurs articles sur les questions de maltraitance institutionnelle. Et vous étiez venue dans Affaires Sensibles pour nous éclairer sur les Magdalena Sisters, cette affaire d'internement forcé de milliers de jeunes femmes irlandaises. Alors, pour revenir sur le home de Tuam, des fouilles ont démarré, on l'a dit, au début de l'été pour sortir les ossements de terre et enfin donner une vraie sépulture à ces enfants. Où en est-on ?
Alors, en effet, ces fouilles ont démarré le 14 juillet dernier. Il s'agit d'une opération extrêmement coûteuse, comme vous l'avez dit, délicate et complexe, même à savoir une des plus complexes au monde, ce qui explique en effet qu'elle est prévue pour durer au moins 2 ans. Des fouilles tests avaient été réalisées en 2016-2017 et avaient révélé qu'en effet, il y avait des restes humains enfouis dans une ancienne fosse septique. Et ces fouilles, pour lesquelles de nombreux experts internationaux se sont déplacés, doivent en effet permettre d'exhumer, d'identifier et d'offrir une sépulture digne de ce nom aux 800 bébés qui ont été jetés dans cette fosse. Et bien sûr également de permettre aux familles des victimes de ces institutions de pouvoir enfin faire leur deuil. Ça s'inscrit dans une démarche de justice réparatrice et transitionnelle.
Mais est-ce que la législation a évolué pour aider les familles dans leur recherche ?
Alors en effet, il y a eu récemment une loi votée, donc 2022, en vertu de laquelle les personnes qui ont séjourné dans des mother and baby homes ou institutions similaires publiques pendant leur enfance ont désormais un droit garanti d'accès aux informations et aux dossiers concernant leur naissance et leur petite enfance, lorsque ces informations sont disponibles, bien entendu. Et pour ceux qui recherchent activement à localiser ou entrer en contact avec un parent biologique, un service de recherche est également disponible. Mais pour le moment, ces recherches sont loin d'être complètes et faciles, comme vous pouvez l'imaginer.
Oui, mais vous avions déjà reçu, pour parler des Magdalena Sisters ou la Rodriguez, c'était des blanchisseries, je le rappelle, où 10 000 jeunes filles ont été incarcérées, condamnées à l'esclavage, parfois à vie, parce qu'elle avait soi-disant fauté. Oui. En Irlande, il y a aussi eu le scandale des prêtres pédocriminels. Ça fait beaucoup de scandales liés à l'Église, dans ce pays. Enfin, on le voit un peu partout, mais surtout dans ce pays.
Surtout dans ce pays. En fait, je suis pas encore certaine d'être parvenue à résoudre cette énigme et expliquer pourquoi des religieux et des religieuses ont traumatisé, maltraité les catégories les plus vulnérables de la population, à savoir les femmes et des enfants. Mais essayons de proposer quelques pistes. Comme vous l'avez expliqué, l'idéologie qui prévaut en Irlande entre, disons, 1922, la date de l'indépendance de l'Irlande, et les années 90, repose donc sur l'idée que tout ce qui risque d'entacher l'image de la nation pure et morale doit être caché et tu. Cela explique l'existence de tout un réseau d'institutions qui est supposé prendre en charge ces enfants, s'en occuper en secret, mais sans qu'aucune surveillance ne soit exercée, et donc prendre en charge ces femmes immorales et leurs enfants, le fruit de leur péché. Et donc à ce titre, on leur réserve le sort qu'ils et elles méritent, c'est-à-dire on les fait expier. D'où les maltraitances physiques et psychologiques et le travail forcé. Pour ce qui est des abus sexuels, il s'agit d'autre chose. À mon avis, il s'agit plus d'une perversion liée à l'excès de pouvoir conféré à ces religieux. Ils pouvaient, donc ils faisaient. Et je pense que la religion entre en partie en ligne de compte, mais pas seulement, puisqu'on a pu observer les mêmes phénomènes dans le sport ou tout autre système où des enfants sont placés entre les mains de personnes qui exercent une autorité quasi sacro-sainte. Alors bien sûr, pour les prêtres, on peut évoquer la question du célibat, mais cela n'explique pas tout. Il faut comprendre qu'en Irlande, pendant des décennies, le prêtre est l'homme le plus puissant de la paroisse. Il décide si oui ou non ses ouailles se comportent bien, se conduisent bien et punit ceux qui fautent, et surtout celles qui fautent. Et d'ailleurs, comme les femmes pécheresses, comme les enfants illégitimes sont des fauteurs, ils sont en quelque sorte déshumanisés, et à ce titre, on peut tout se permettre.
France Inter. Affaires sensibles.
Nathalie Seban, je rappelle que vous êtes l'autrice de plusieurs articles sur les questions de maltraitance institutionnelle et vous étiez venue dans Affaires Sensibles pour nous éclairer sur les Magdalena Sisters. C'était en Irlande également, ce pays nous interpelle, décidément. Alors, est-ce qu'on peut tracer une sorte de portrait de ces femmes qui se trouvaient dans ces institutions ?
Oui, alors en général, il s'agissait de femmes et de filles issues de milieux pauvres, défavorisés, puisque dans des milieux plus aisés, il était plus facile de dissimuler ou de régler une grossesse illégitime. Donc il pouvait s'agir de femmes qui avaient été violées, de femmes victimes d'inceste, certaines souffraient de troubles mentaux, de handicaps. Mais en fait, ce qui les différenciait des autres Irlandaises du même âge, c'est qu'elles étaient simplement tombées enceintes hors mariage.
Ah, les fameuses fimères.
Les fameuses fimères. Et donc, leur grossesse faisait peser le poids de la honte sur leur famille, qui, sous les conseils avisés du prêtre de la paroisse, tout puissant, n'hésitait pas à les confier aux Mother and Baby Homes ou Magdalen Laundries. Les pères des enfants ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'en occuper, et même lorsqu'ils ont voulu le faire, les religieuses leur ont mis des bâtons dans les roues. Certaines de ces filles avaient à peine 12 ans, mais environ 80%, selon le rapport de la commission d'enquête, auquel on ne peut se fier qu'avec la plus grande prudence, avaient entre 18 et 29 ans. Pour que les femmes et les filles puissent quitter l'institution, il fallait payer, sinon elles y restaient minimum 2 ou 3 ans. Quant aux récidivistes, celles donc qui revenaient une deuxième fois enceintes hors des liens du mariage, elles étaient envoyées dans des Magdalen Laundries. Et c'est qu'en 1973 que l'État a mis en place une aide financière pour aider les mères célibataires. Et avant, bien sûr, elles n'avaient aucune structure vers laquelle se tourner.
Et alors, les femmes qui accouchaient d'un enfant issu d'un viol subissaient le même traitement
absolument
que les autres, la double peine terrible.
La double peine, absolument le même traitement. Il n'y avait aucune différence faite. Aucune différence.
Mais ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est de la violence, c'est de l'inhumanité absolue.
C'est de l'inhumanité, on peut le dire comme ça, mais c'est simplement, elle représentait, aux yeux de cette société bien pensante, de cette société, de cette espèce de national-catholicisme, ce qu'il y avait de plus abject. Ouais. Et donc, il fallait absolument les punir et les faire expier.
National-catholicisme, je retiens l'expression.
Mais c'est ce qui avait été utilisé pour parler du régime de Franco. C'était
oui,
le national-catholicisme, et on observe dans l'Espagne franquiste le même type de scandale, le scandale des bébés volés, qui étaient arrachés aux familles républicaines pour être rééduqués.
Oui, on l'a raconté dans l'affaire Sensible.
Et des institutions dans lesquelles on enfermait aussi des femmes rebelles.
Alors, ce système d'enfermement des femmes était une sorte de bombe à retardement, parce que d'un côté, on a des religieuses privées de leur vie de femme, et de l'autre, des femmes privées de leur liberté. J'ai l'impression que ça pouvait que mal se passer.
Ça ne pouvait que mal se passer, en effet. Vous aviez deux groupes de femmes qui vivaient enfermées dans des institutions. Les unes, les religieuses, qui, pour bon nombre d'entre elles, n'avaient certainement pas choisi d'aller dans un couvent. Ça pouvait être motivé simplement par des raisons économiques et financières, de familles très nombreuses. On ne savait pas quoi faire de ces filles. On envoyait un garçon au séminaire et une fille dans les couvents, institutions religieuses.
Comme au Moyen-Âge.
Voilà. Et de l'autre côté, vous aviez ces jeunes femmes dont les religieuses estimaient qu'elles étaient là parce qu'elles étaient immorales et qui représentaient exactement l'autre envers du décor. Donc, d'un côté, vous aviez les saintes, la Vierge Marie, et d'autre côté, les pécheresses, les Marie-Madeleine. Et on peut facilement imaginer à ce titre que cette cohabitation est extrêmement périlleuse. Mais pour autant, rien ne justifie les mauvais traitements que les religieuses ont infligés aux femmes et aux enfants, les humiliations, le travail forcé, les coups, le manque de soins et de compassion, sauf à considérer, comme je l'ai dit, que ces femmes et enfants étaient déshumanisés parce qu'immoraux et morales.
Enfin, ces religieuses, on les appelle les bonnes sœurs, elles sont toutes sauf de bonté. Hein. Elles n'avaient pas des problèmes de conscience, quand même?
À retardement, mais vraiment à retardement. Ouais. Et il faut quand même dire que, certes, ça a existé, certes, ça a été très souvent, elles ont été très nombreuses à infliger des mauvais traitements, mais on peut pas non plus en faire une généralité absolue.
Oui, j'imagine.
Parce qu'il y a des témoignages, quand même, de femmes qui racontent que si ça avait pas été pour les religieuses et pour les couvents, elles n'avaient absolument aucun endroit où aller, puisque les parents les mettaient dehors. Donc c'est un peu à double tranchant, c'est assez compliqué maintenant pour ces femmes aussi de gérer cette situation.
Alors la mainmise des religieuses sur la société était telle que même quand les femmes tentaient de fuir l'Irlande pour se réfugier, j'imagine en Angleterre, où on était un peu plus clément, elles se retrouvaient parfois rattrapées par ce qu'on appelait les Crusades of Rescue. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'était effectivement, il y a plusieurs témoignages de femmes à qui c'est arrivé. Donc c'était, alors le Crusade of Rescue, comme d'autres organisations religieuses, était chargé en fait de rapatrier en quelque sorte les femmes qui avaient fui l'Irlande parce qu'elles étaient enceintes et qu'elles ne voulaient pas que ça se sache, ou bien parce qu'elles étaient tombée enceinte en Angleterre. Et donc, l'une de ces femmes, justement, une de ces victimes, raconte que non seulement elle a été ramenée de force en Irlande, placée dans un mother and baby home, et que son fils, dont elle avait accouché entre-temps, a été ensuite kidnappé à son tour pour être adopté. Et en fait, c'était une espèce, effectivement, de croisade menée par l'Église catholique, de bataille pour les âmes catholiques. Et donc, il préférait voir ses enfants vivre toute leur vie dans des institutions, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer de Mother and Baby Home, Industrial Schools, Magdalen Laundry, plutôt que de les voir vivre dans des familles protestantes ou d'une autre confession, ou plutôt que de voir ces femmes avoir recours à l'avortement. C'était, en fait, des déportations, tout simplement.
Et au-delà, et enfin, des mauvais traitements infligés aux enfants qui ont conduit à la mort de beaucoup d'entre eux, on l'a dit, on voit aussi un système illégal d'adoption mis en place par les religieuses elles-mêmes. Ça veut dire que l'Irlande a été vraiment la plaque tournante du marché illégal de l'adoption dans les années 70 ?
Bah, même avant, mais ça a continué assez tard. Effectivement, pour les enfants qui mouraient pas de par manque de soins, de malnutrition, bah, le sort qui leur était réservé, c'était l'adoption. On peut même parler, on est même allé jusqu'à parler de trafic d'enfants. Et c'est en effet ce qui était le cas. On considère qu'environ 4000 enfants ont été illégalement adoptés et donc vendus à l'étranger, puisque c'était bien de ça qu'il s'agissait, c'était de vendre, entre les années 40 et les années 70. Et l'Irlande était en effet considérée comme un terrain de chasse, selon les termes d'un haut fonctionnaire, où les étrangers, à la recherche d'un bébé, pouvaient facilement obtenir des enfants illégitimes, ou bien dans des mother and baby homes, ou dans d'autres types d'institutions. Et c'est intéressant de constater que le nombre de bébés exportés à l'étranger excède de très loin le nombre de passeports délivrés, ce qui, effectivement, indique qu'il y avait eu trafic.
Et donc, pour de l'argent.
Pour de l'argent.
Donc les religieuses étaient vénales.
Alors les religieuses étaient vénales, et puis il y avait d'autres institutions qui vendaient aussi les enfants. Vous aviez des hommes d'affaires qui voyageaient seuls et qui passaient par un mother and baby home et qui repartaient avec un enfant, et c'était la surprise pour la femme.
Ils allaient faire leurs courses, quoi.
Ils allaient faire leurs courses. Ouais, ils avaient même un catalogue, apparemment,
avec
les photos des enfants, et on choisissait. Eh bien, écoutez, par correspondance.
Ce sera le mot de la fin, Nathalie Seban. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et affaire sensible aujourd'hui, le scandale des enfants fantômes de l'Irlande, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alix Barrois.